On continue avec le numéro du Monde Diplomatique. On va parler d'un papier qui n'est pas dans le Monde Diplomatique. Ah, quoi que si, si on en parle. Mais enfin, on ne parle pas de Charm el-Cheikh, quand même. Hein, puisque ça, Charm el-Cheikh, c'est demain. Est-ce que la paix a une chance, Dominique Vidal?
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on est demain devant un événement que personne n'aurait pu imaginer il y a quelques semaines. Hein. C'est bien la preuve que quelque chose a bougé. Et c'est exactement, au fond, ce que nous disent Robert Mallet, l'ancien conseiller de Clinton, et Hussein Agha dans le papier qu'ils consacrent à Abu Mazen, qu'ils appellent le dernier Palestinien. C'est cette stratégie qui s'est mise en œuvre très rapidement. Dès l'élection de Mahmoud Abbas, Abu Mazen, celui-ci, qui on le sait, avait condamné la militarisation de l'intifada au moment où elle s'est produite, c'est-à-dire à la fin de l'année 2000, a mis en œuvre une stratégie extrêmement forte, d'une part politique de négociation avec l'ensemble des forces armées palestiniennes, l'ensemble des milices armées, pour aller vers une trêve, et en même temps, de préservation de cette trêve avec un déploiement des forces de police palestiniennes à la fois au nord et au sud de la bande de Gaza pour empêcher que ce soit l'envoi de missiles comme il s'en produisait régulièrement sur la ville de Sderot, que ce soit d'autres activités provocatrices à l'égard des soldats israéliens. Donc on a là une stratégie que Abu Mazen a mis en place extrêmement vite, je trouve, et qu'il a réussi jusqu'ici à développer avec beaucoup de succès. L'autre aspect, sinon on n'y comprendrait rien évidemment, c'est le fait que le gouvernement de droite et d'extrême droite en Israël a dû céder la place à un gouvernement d'union nationale dans lequel le parti travailliste a repris sa place, et en particulier Shimon Peres. Et sauf à imaginer le choix d'un suicide définitif pour ce parti qui est déjà très mal en point, on voit mal que sa participation au gouvernement n'aille pas dans le sens d'un arrêt des combats, de la relance du processus de paix et d'une nouvelle négociation avec les Palestiniens. Donc, disons, il y a un contexte plutôt favorable qui explique, à mon avis, pour l'essentiel, la tenue du sommet de Charm el-Cheikh. En même temps, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, éviter toutes les euphories.
Oui, le passé rend prudent.
Voilà, on a su
en matière.
On a su à quoi l'euphorie menait au moment du processus d'Oslo. Le processus est fragile. Il l'est d'abord parce qu'il est à la merci de n'importe quelle provocation d'un côté ou de l'autre, un attentat kamikaze important, ou bien une provocation, un massacre de civils palestiniens. Dans les deux cas, ça pourrait faire échouer complètement ce qui a été mis sur les rails, ce qui va être mis sur les rails demain à Charm el-Cheikh. Deuxièmement, le problème se pose de la mise en œuvre des promesses qui ont été faites, plus ou moins officiellement, par le gouvernement israélien. On comprend bien que Mahmoud Abbas ne peut pas obtenir un soutien de la masse de la population palestinienne, qui souhaite évidemment en finir avec le cauchemar dans lequel elle a vécu depuis 4 ans, sans avoir des gestes du côté israélien. Donc il y a la question des prisonniers. Est-ce qu'on va ou non libérer des prisonniers? Et lesquels? Pas seulement des prisonniers de droit commun, comme on l'avait fait la dernière fois. Est-ce que les troupes israéliennes vont se retirer de l'ensemble des centres-villes, lever les checkpoints, permettre de retrouver un minimum de liberté de
circulation ? La question du mur aussi, parce que on continue.
Le mur qu'il faudrait pour le moins geler, arrêter. La construction du mur ne peut pas continuer en même temps qu'on proclame une volonté d'avancer vers un nouveau processus de paix. Et puis il y a, bref, toute une série de gestes, on ne va pas prendre le détail, qui doivent venir conforter les efforts qui ont été faits du côté palestinien et permettre surtout à la population palestinienne de tirer les fruits immédiats de cette affaire. Troisièmement, tout le problème va être celui du retrait. C'est-à-dire, est-ce que le retrait va être, comme Sharon l'avait prévu, unilatéral ? Est-ce qu'il ne va concerner que les colonies de la bande de Gaza ou aussi la Cisjordanie ? Dans quelle mesure il va s'étendre à l'ensemble des colonies de Cisjordanie? Est-ce que les Palestiniens et les Israéliens mèneront de concert ce retrait? Est-ce qu'il sera organisé en commun? Bref, il y a toute une série de questions qui sont posées. Elles sont posées à l'égard des Palestiniens, mais je rappelle aussi qu'elles sont posées de manière étonnamment forte en Israël même. Je crois, enfin...
Est-ce que les Israéliens sont prêts à ça?
C'est ça, on est devant une situation d'exacerbation des tensions internes en Israël comme on n'en avait jamais vécu. Moi, je n'ai pas souvenir d'une situation en Israël où on n'ait pu penser à l'hypothèse sérieuse soit d'une guerre civile, soit même d'un putsch. Pourquoi je dis ça ? Parce que visiblement...
Ça fait quelques mois déjà qu'il en est question.
Mais maintenant, on est au cœur de la question. C'est-à-dire, est-ce que les forces armées et de police israéliennes qui vont être chargées de mettre en œuvre le retrait vont se voir opposer la force, et si oui, la force armée ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir, de la part du parti des colons, c'est-à-dire, c'est pas seulement les colons, mais tous ceux qui les défendent dans l'appareil d'État, dans l'establishment israélien, est-ce qu'il va y avoir une révolte armée contre la décision démocratique prise par le gouvernement et le Parlement israélien ? C'est une vraie question. C'est-à-dire, on est aujourd'hui devant une opinion qui, de manière extrêmement majoritaire, souhaite un règlement de paix avec les Palestiniens. Et j'ai là... avec moi, des chiffres, je ne vais pas vous les raconter dans le détail, mais qui montrent qu'aujourd'hui, c'est-à-dire fin janvier, disons, d'après le sondage qui a été fait des deux côtés, 54% des Palestiniens sont prêts à accepter un accord global sur la base de Genève, contre 44% qui s'y opposent, et chez les Israéliens, c'est encore plus massif, 64% des Israéliens sont pour, et seulement 33% sont contre. Pourquoi ? Pour un État palestinien sur l'ensemble des territoires occupés en 1967, avec des échanges de territoires un kilomètre carré sur environ 3%, qui permettent de regrouper les colonies les plus importantes.
Alors, ce qui veut dire qu'il faut modifier le tracé du mur.
Le mur là-dedans ne peut pas exister, on ne peut pas penser.
Mais il existe.
Le mur à l'intérieur d'un État palestinien viable et continu, comme on disait au moment de lancement de la feuille de route. Donc, on a la question de Jérusalem, donc Jérusalem-Est, capitale de l'État palestinien, une solution juste du problème des réfugiés, c'est-à-dire la reconnaissance du principe du droit au retour, mais le fait que ce droit au retour s'opère dans l'État de Palestine à naître, bien sûr, tous ces points que je viens d'énumérer, on a 54% des Palestiniens et 64% des Israéliens qui sont pour. Et c'est bien ce qui explique que le parti des colons se mobilise, et se mobilise d'une manière qui devient préoccupante pour l'avenir même de la vie démocratique en Israël. Donc, tout cela pour dire simplement que si ça a avancé, et ça a avancé, il faut bien avoir en tête la fragilité de ces premiers pas. Rien ne sera solide tant que le gouvernement israélien n'aura pas fait les gestes nécessaires en réciprocité de ce qui a été fait par Abou Mazen depuis son élection le 9 janvier, et d'autre part, si l'on ne va pas vite vers le vif du sujet, c'est-à-dire le retrait d'Israël des territoires occupés, la négociation du statut final pour l'État palestinien à naître. Je rappelle que, de ce point de vue, la feuille de route reste un cadre considéré, en tout cas, comme valide par la communauté internationale, par les États-Unis, par l'Union européenne, par la Russie, par l'ONU. Et c'est donc dans ce cadre-là que tous les gestes prévus doivent s'opérer. On ne peut pas avoir une espèce de jeu bilatéral israélo-palestinien que la communauté internationale, la vraie, j'entends, l'ensemble des nations du monde, n'encadrerait pas. Parce que ça, c'est la leçon d'Oslo. Laisser seuls les Israéliens et Palestiniens dans toutes les contradictions que je viens de dire, ils ont de fortes chances de dérailler à nouveau. Donc il faut que la communauté internationale encadre ces efforts de paix.